chercheur en génétique moléculaire à l'Université Paris 11, conseiller régional d'Île-de-France, cofondateur et vice-président d'une association de chercheurs européenne, ENSER, administrateur de la Fondation Sciences Citoyennes, membre du CRIGEN, un autre groupe de chercheurs en génétique, une personne hautement respectable. Et en même temps, un personnage tout à fait dangereux, puisque Christian Vélo a été lanceur d'alerte avant même qu'on sache ce que c'était des lanceurs d'alerte. C'était un terme qui avait été forgé par Francis Chateaurénaud, un sociologue. Il avait traduit ça de l'anglais whistleblower, les gens qui sifflent, qui tirent la sonnette d'alarme, en quelque sorte. Et ce rôle de lanceur d'alerte a valu à Christian un certain nombre d'aventures et de mésaventures, dont il parlera sans doute. Et tout ça, c'était en lien avec ce qu'on vient de voir, Christian, avec les OGM. Alors, est-ce qu'on commence aujourd'hui avec ces jeunes qui font des films pour gagner des millions? C'est sûr qu'ils vont gagner des millions avec des films sur les OGM. Et pour entamer des carrières brillantes de réalisatrices de cinéma.
Oui, parce qu'ils ne pourront pas entamer des carrières de chercheurs. Merci Ruth, bonsoir à toutes et à tous. Donc merci aux organisateurs de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être là. Ça fait, je crois, au moins trois fois que Jocelyne et Pierre essaient de me demander de venir. Ce n'était pas facile les années passées, au mois d'octobre. Ce n'était pas non plus très facile cette année. Mais bon, voilà, on est vraiment content à Sciences Citoyennes, puisque comme Ruth l'a dit, je suis membre de Sciences Citoyennes avec Christophe Morvan, qui est un des salariés de Sciences Citoyennes, qui est là et qui... vous a présenté la fondation, enfin l'association pour une fondation sciences citoyennes hier soir. Et Jocelyne et Pierre viennent tous les ans à notre assemblée générale à Paris et ils font partie de ces personnes qui justement travaillent d'arrache-pied pour essayer de d'étendre quelque chose qui a été initié au départ uniquement sur Paris, donc la fameuse science en bobine. Et ils font vraiment un travail extraordinaire. Donc je tiens vraiment à ce qu'on les félicite et ce qu'on les applaudisse pour tout ce qu'ils font ici. Toute l'équipe est là. Donc nous, on est vraiment très heureux à Sciences Citoyennes que des personnes aient de telles initiatives, parce que justement, le problème, c'est que tout est centré sur Paris et qu'il y a des tas de gens qui sont de bonne volonté ailleurs, mais que c'est très difficile, tant qu'on n'a pas un minimum de personnes, d'arriver à créer des antennes en province de Sciences Citoyennes. Et à terme, c'est ce qu'on aimerait arriver à faire. Alors peut-être que la première véritable antenne en province, ce sera dans les Hautes-Alpes. Mais en tout cas, voilà, donc grâce à Pierre, Jocelyne et d'autres que je connais moins ou que je ne connais pas et qui vous entourent bien sûr dans votre association, eh bien voilà, ce genre d'événement peut avoir lieu ailleurs qu'à Paris. Et c'est très très bien parce qu'on a parfois beaucoup plus de monde dans des petits villages comme ça qu'à Paris même, où il y a évidemment beaucoup de festivités, beaucoup de choses qui ont lieu en même temps, et c'est toujours très compliqué. Voilà. Alors, donc pour rebondir sur le sujet des lanceurs d'alerte, alors je voudrais quand même juste préciser, pour ce qui est de la présentation qui vient d'être faite, conseiller régional, c'est tout nouveau. Et je ne suis pas, j'ai encore rien fait au conseil régional d'Île-de-France, c'est simplement qu'avec le jeu de chaises musicales qui s'est passé suite aux nominations au gouvernement, etc., et au non-cumul de mandats, en tout cas pour certains qui le respectent, eh bien, des personnes ont dû abandonner leur siège au conseil régional d'Île-de-France. Il se trouve que j'étais sur une liste en 2010, que le score n'a pas été ridicule, et donc alors que j'étais censé être en position non éligible, je me suis retrouvé dans une position bien placée, et dans les premiers non élus. Et du coup, ben, avec ces personnes qui se sont désistées, je me suis retrouvé élu. Et je l'ai appris il y a une semaine, et je le suis officiellement depuis le 15 juillet. Voilà. Donc, oui, puisque la personne a démissionné le 15 juillet, mais j'étais en vacances, donc je n'ai pas eu le courrier du préfet. Voilà, donc je ne sais pas si je vais d'ailleurs continuer, si je vais vraiment prendre le mandat, parce qu'entre-temps, professionnellement, il s'est passé un certain nombre de choses et c'est difficile de tout cumuler. Voilà, mais en tout cas, ça, c'est une parenthèse. Alors, pour vraiment rentrer dans le vif du sujet, pour répondre à la question de Ruth, ou à, en tout cas, son introduction sur la question des lanceurs d'alerte, alors effectivement, c'est un terme dont on commence à entendre parler. Peut-être, au fond, vous ne me voyez pas bien, donc je vais me mettre debout. Voilà. Donc, et puis en fait, moi je préfère parce qu'au bout d'un moment je m'échauffe et je bouge. Donc voilà. La question des lanceurs d'alerte, alors d'abord ce qu'est un lanceur d'alerte, effectivement, Ruth l'a dit, ça a été traduit par deux sociologues, dont Francis Chateaurénaud et Didier Torny. L'autre est Didier Torny, donc deux sociologues de l'école des hautes études en sciences sociales, qui ont traduit donc le terme de l'anglais whistleblower, ceux qui sifflent. Et le terme de lanceur d'alerte signifie toute personne, alors c'est souvent un chercheur, mais pas forcément, tout citoyen qui, dans le cadre de son activité professionnelle, associative, militante, etc., prend conscience d'un danger potentiel pour la population et décide d'en informer le plus grand nombre et les pouvoirs publics. Et alors, c'est pas forcément le but du lanceur d'alerte, ce n'est pas forcément de démontrer, c'est-à-dire qu'en ce sens, il n'est pas nécessairement un expert du sujet. Hein, il peut simplement, par son expérience professionnelle, par ses connaissances associatives, etc., prendre connaissance d'un danger qui lui considère en tout cas que c'est un danger, et donc il veut en informer le plus grand nombre, les pouvoirs publics. Alors c'est souvent dans le domaine de la santé et de l'environnement, mais ça peut être dans le domaine de l'éthique, ça peut être dans le domaine économique. Et comme c'est souvent dans le domaine de la santé et de l'environnement, et que la santé et l'environnement touchent de nombreux secteurs économiques, eh bien évidemment, il s'expose en général, ce lanceur d'alerte, qui agit seul parce qu'il n'existe pas de système d'encadrement de l'alerte actuellement en France, eh bien, et dans beaucoup de pays. À l'exception de l'Angleterre et des États-Unis qui ont un système d'encadrement de l'alerte, il n'y en a pas ailleurs. Et donc cette personne se retrouve totalement isolée et souvent soumise à des pressions très importantes de sa hiérarchie, voire des instances locales ou des instances d'État, parce que cette hiérarchie est souvent elle-même soumise, subordonnée aux intérêts financiers en question. Et donc évidemment, c'est un problème d'autant plus grave aujourd'hui que, vous le savez, depuis des décennies, et pas seulement en France, eh bien, on assiste à une déresponsabilisation progressive de l'État dans le financement de la recherche publique, ce qui laisse une part de plus en plus importante à une recherche mercantile pilotée par des intérêts donc commerciaux à court terme. Et évidemment, ça, ce n'est pas sans conséquence en termes notamment d'évaluation des produits de la technologie ou des technologies elles-mêmes. Tout simplement parce que le temps que demande l'évaluation sanitaire et environnementale n'est pas compatible avec l'urgence des brevets et l'urgence des profits. Et donc, on assiste à une carence d'évaluation, j'y reviendrai, bien sûr, c'est le cas, et pas seulement pour eux, mais c'est le cas pour les OGM. Et donc, on assiste à une carence d'évaluation, puis souvent aussi à une opacité d'évaluation. Parce que les personnes qui effectuent les tests environnementaux sanitaires, ou les quelques tests environnementaux sanitaires qui sont exigés par la législation, sont souvent ceux qui promeuvent les produits en question pour des raisons de protection industrielle. Et donc, du coup, on est dans une carence et une opacité d'évaluation qui met le problème de l'alerte vraiment au cœur de la problématique de l'expertise. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une véritable expertise, bien souvent, pour justement surmonter cette opacité et cette carence d'évaluation, eh bien, il faut qu'il y ait des lanceurs d'alerte. Et le fait est que beaucoup de sujets environnementaux et sanitaires récents ont été mis au cœur du débat sous l'action de personnes totalement individuelles, de personnes isolées, des lanceurs d'alerte. Ça a été le cas de l'amiante, ça a été le cas des éthers de glycol, ça a été le cas de la disparition des abeilles, ça a été le cas de l'excès de sel dans l'alimentation, le cas de la culture des OGM en plein champ, le cas d'enfants dans une école de Saint-Cyr-l'École qui a été construite sur un ancien site de Kodak où on a assisté à un développement, un grand nombre de leucémies chez des enfants de cette école, en tout cas un nombre de leucémies nettement supérieur à la moyenne nationale. Ça, ce n'était pas une chercheuse qui a lancé l'alerte, c'était une fille qui était à la tête d'une association locale, une association de parents d'élèves, etc., et qui a lancé l'alerte. Vous voyez, donc l'alerte n'est pas réservée aux chercheurs, même si on parle souvent des chercheurs. Vous avez le cas d'Irène Frachon, hein, qui a soulevé le problème du Mediator récemment, donc qui a fait beaucoup parler d'elle, et qui d'ailleurs était une lanceuse d'alerte sans le savoir, parce qu'elle ignorait le terme, elle aussi, quand elle a vraiment alerté sur le Mediator. Donc voilà, et bon, Irène Frachon n'a pas eu trop de conséquences parce qu'effectivement, elle a bénéficié elle est intervenue à un moment où le médiateur était déjà interdit dans d'autres pays, où elle disposait d'un certain nombre d'éléments scientifiques qui démontraient effectivement les dangers du médiateur. Lorsque l'alerte arrive de manière un peu plus précocement, et que les démonstrations ou les démonstrations scientifiques ne sont pas toujours là pour prouver la véracité de l'alerte, eh bien le lanceur d'alerte s'expose souvent à des pressions extrêmement graves qui peuvent aller jusqu'au licenciement dans le privé ou jusqu'à la mise au placard dans le public. Et donc, il est donc urgent que la France s'entourent d'un, se munissent d'un dispositif juridique, d'un arsenal juridique qui permette d'encadrer l'alerte et de protéger l'alerte, disons, d'encadrer l'expertise. Parce que l'alerte ne peut pas être dissociée de l'expertise. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important pourquoi ? Parce que, d'abord, dans une expertise idéale, dans un système d'expertise idéale, il n'y a plus besoin d'alerte. Et puis, inversement, l'alerte doit elle-même faire l'objet d'une expertise. Parce qu'il peut y avoir, d'abord, des fausses alertes, de toute bonne foi. Une personne de bonne foi peut lancer une fausse alerte. Mais elle pensait qu'il y avait un danger, il s'avère qu'il n'y en a pas, mais elle pensait qu'il y en avait un. Elle l'a lancé de toute bonne foi. Il vaut mieux lancer une fausse alerte que de ne pas lancer une vraie alerte. Or, il existe de nombreux couvreurs d'alerte. C'est-à-dire des gens qui savent qu'il y a un problème, mais qui se taisent. Et évidemment, on aura véritablement gagné dans ce combat le jour où il ne sera plus question de protéger les lanceurs d'alerte, mais où on pourra poursuivre quelqu'un devant la justice parce qu'il a couvert une alerte. Alors, on n'en est pas là. Aujourd'hui, il s'agit déjà de protéger les lanceurs d'alerte, mais dans un cadre de déontologie de l'expertise. Et c'est ce qui avait été proposé dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Vous savez que dans le cadre du Grenelle de l'environnement, il y avait un groupe qui s'appelait un groupe de travail qui s'appelait Gouvernance, auquel participait Sciences Citoyennes, et où il était question justement de ces problèmes d'expertise, de ces problèmes d'alerte. Et le Grenelle de l'environnement, dans ses conclusions, s'était engagé à avait reconnu la nécessité de mettre en place une loi de protection de l'alerte et d'encadrement de l'expertise. Malheureusement, ça a fait l'objet, dans les traductions politiques du Grenelle de l'environnement, d'un enterrement de première classe. Et aujourd'hui, on repart totalement à zéro. Et donc, l'association Fondation Sciences Citoyennes, en collaboration avec des chercheuses de l'École des hautes études en sciences sociales, notamment Christine Noiville et, j'ai oublié, Marie-Angèle Hermite, merci. Merci Christophe. Donc, en collaboration avec ces personnes, Fondation Sciences Citoyennes a proposé un projet de loi qui, bien sûr, nécessite d'être porté par des parlementaires. C'est une proposition de loi donc, d'encadrement de l'alerte, de déontologie, de l'expertise. Donc, les deux étant bien sûr couplés. Et ça, c'est extrêmement, j'insiste, important parce qu'aujourd'hui, on l'a vu avec la loi sur le médicament suite à l'affaire du Mediator, avec la loi de protection des consommateurs, où on essaie de saupoudrer un petit peu de lanceurs d'alerte, de protection de lanceurs d'alerte par-ci, par-là, mais totalement disconnecté d'un système d'expertise. Et ça, c'est le meilleur moyen de vider la question du lanceur d'alerte, de sa substance. Il faut absolument que ce soit couplé à une expertise, et notamment que cette protection du lanceur d'alerte rentre dans le cadre d'une réforme du Code du travail pour que la personne soit véritablement protégée, qu'elle ait droit, bien sûr, à une liberté d'expression et qu'elle ait droit à une véritable protection dans le cadre de la législation du travail. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus important que lors du Grenelle de l'environnement, qui a été le plus hostile à la mise en place d'un système de protection de l'alerte dans le cadre d'un encadrement de l'expertise, ça a été le MEDEF. Tout simplement parce qu'il avait peur qu'on tombe dans un système où on crie au loup, d'où la nécessité que l'alerte elle-même fasse l'objet d'une expertise plurielle, contradictoire, transparente, etc., pour savoir si elle est fondée ou pas, et si elle est fondée, que derrière, eh bien, l'alerte fasse l'objet donc, d'une véritable expertise. Parce que se protéger le lanceur d'alerte, c'est bien, mais si l'alerte est mise au panier derrière, on n'aura pas gagné grand-chose. Donc vous voyez à quel point c'est important. Et puis également, le MEDEF était contre parce qu'il considérait que permettre une protection du lanceur d'alerte, c'était en fait entraver le principe de subordination. Donc vous voyez à quel point c'est, je dirais, profondément politique et à quel point il est nécessaire de recadrer ce problème de l'alerte dans vraiment une déontologie de l'expertise, avec une expertise transparente. Ça pose le problème également des conflits d'intérêts dans les comités d'experts. Les politiques ne peuvent pas être des spécialistes de tout. Donc, effectivement, à un moment donné, ils vont se référer à ce qu'on appelle des comités d'experts, même si je n'aime pas trop le terme. Mais ça pose la question de qui sont ces experts. Et donc, ces experts, bien sûr, doivent représenter d'abord, dans le monde scientifique, ils doivent représenter l'ensemble des tendances, l'ensemble des courants scientifiques sur la question, la question précise. Quand vous prenez, par exemple, aujourd'hui, l'Agence européenne de sécurité de l'environnement, sur laquelle s'appuie la Commission européenne pour décider, par exemple, d'autoriser ou pas un OGM à la culture commerciale ou à la consommation animale et humaine, eh bien, l'Agence européenne de sécurité alimentaire, qui comprend dans son panel OGM 21 scientifiques, a été consultée pour 126 avis sur les OGM. Elle a donné 126 avis positifs. à l'unanimité. C'est beau, hein ? D'ailleurs, je le dis dans la salle, s'il y a des gens qui ont des problèmes de couple, c'est-à-dire qui ont du mal à s'entendre à deux. Prenez exemple sur le panel OGM de l'EFSA. Ils sont 21, ils sont toujours d'accord. C'est extraordinaire. Et vous voyez qu'ils ne représentent même pas la diversité du monde scientifique, puisque dans le monde scientifique, l'évaluation des OGM fait débat, et on est loin d'être tous d'accord sur cette question. Et puis, en plus, on sait très bien pourquoi on en est là avec l'EFSA. Ça a été soulevé par beaucoup de personnes, notamment José Bové depuis qu'il est au Parlement européen, mais d'autres, c'est que les membres de l'EFSA, enfin les membres du panel OGM de l'EFSA, mais c'est vrai pour d'autres panels malheureusement, sont totalement inféodés à l'industrie de la semence. Et en plus, c'est un système consanguin. C'est-à-dire, quand il y en a un qui part, il est remplacé par quelqu'un qui est choisi par celui qui est parti, ou par ceux qui restent, c'est-à-dire la même chose. Et donc, en fait, on est toujours dans le même système de personnes qui sont totalement, et qui cachent d'ailleurs leur conflit d'intérêts sur les déclarations de conflit d'intérêts. Et puis, lorsque le lièvre est soulevé, alors bien sûr, ils vont sur le site et puis ils modifient un petit peu leur conflit d'intérêts en disant, oui, on a effectivement un lien avec ça, mais c'était avant, etc., etc. Et donc, évidemment, il y a un coup de pied dans l'infirmière à faire dans les comités d'experts pour qu'on ait une véritable représentation plurielle du monde scientifique, mais surtout, il n'y a aucune raison pour que dans les comités d'experts, il n'y ait que des scientifiques. Parce que les questions qui sont posées sur des questions comme les problèmes qui sont posés sur des questions comme les OGM, les nanotechnologies, le nucléaire, j'en passe et d'autres, ne sont pas seulement des questions techniques. Ce sont aussi des questions de société. Ce sont des choix de société. Et la première question qu'on devrait se poser, c'est quelle est l'utilité sociale de telle ou telle technologie ? Et ça, la question de l'utilité sociale, ce n'est pas plus les scientifiques que n'importe quel individu. Je dirais, c'est peut-être moins d'ailleurs les scientifiques qui ont souvent le nez dans l'éprouvette et qui ne sont pas forcément les mieux placés pour avoir du recul et pour se poser les vraies questions sociétales. Ça doit être toute la société civile qui doit y réfléchir. Donc à côté du comité scientifique, on doit avoir un comité éthique, social et économique. Comme c'est le cas, par exemple, sur le HCB, le Haut Conseil des biotechnologies, qui a été mis en place après le Grenelle de l'environnement. Il y a un conseil économique, éthique et social à côté du conseil scientifique. Alors juste après le Grenelle de l'environnement, c'était super, parce que ces deux comités se réunissaient autour de la même table. Et d'ailleurs, la première fois qu'ils ont été amenés à faire une évaluation, ça a été ce qui a conduit au moratoire du maïs Monsanto 810 en France, ils ont donné un avis négatif. C'était la première fois qu'on avait un avis négatif sur les OGM, et par hasard, c'est parce qu'on avait deux comités réunis, enfin en tout cas, on avait deux comités réunis autour de la même table et qui donnaient un avis commun. Aujourd'hui, depuis que ce comité, ce Haut Conseil des biotechnologies n'est plus provisoire mais est devenu définitif, le Conseil économique, éthique et social existe toujours, mais il se réunit séparément du Conseil scientifique, parce qu'il ne faut quand même pas mélanger les serviettes et les torchons, et que le Comité économique, éthique et social émet des recommandations, alors que le Conseil scientifique émet un avis. Donc vous voyez déjà qu'on a perdu un petit peu. Donc on est loin du compte et il faudrait donc qu'il y ait une réforme totale de ces comités d'expertise. Il faudrait aussi que l'on puisse tenir compte dans le débat parlementaire de l'avis des citoyens, de l'avis de l'ensemble de la société civile. Pour ça, il existe un certain nombre d'outils, dont ce qu'on appelle les conventions de citoyens, dont vous parlera Christophe Morvan demain soir, puisque effectivement c'est aussi un outil qui a été développé et qui est, disons, le bébé au départ de Jacques Testard, si je puis dire. Il a beaucoup de bébés, Jacques Testard, puisque c'est le père scientifique du bébé éprouvette, mais il a aussi donc les conventions de citoyens, et Sciences Citoyennes, aux côtés de Jacques Testard, a beaucoup travaillé sur les conventions de citoyens, et il y a aujourd'hui un projet de loi, également, pour encadrer les conventions de citoyens, pour qu'elles soient véritablement prises en compte dans le débat parlementaire, et que l'on n'ait pas comme seul avis l'avis d'un comité d'experts soumis à des lobbies scientistes ou à des lobbies financiers. Voilà, donc c'est un petit peu dans cet état d'esprit qu'est faite cette loi sur l'alerte et l'expertise. Pour en savoir plus, il y a des documents qui ont été mis à disposition par Christophe sur la table de presse qui est à l'extérieur, donc des petits documents de 4 pages que vous pourrez prendre gratuitement. Et puis, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde, alors vous pourrez tout simplement aller sur le site de Sciences Citoyennes et vous trouverez donc sur la rubrique lanceur d'alerte le projet de loi donc, de réforme de l'alerte et de l'expertise.
Rondement mené. Est-ce qu'il y a des questions sur les lanceurs d'alerte ? Bon, c'est non. Alors, on va passer maintenant au vif du sujet.
Les OGM, ça, c'était des gâteaux apéritifs.
Oui, c'était l'apéro. Oui, on monsieur... a une question. Oui.
C'est pas une question, c'est une remarque.
Oui.
Les comités d'experts de l'EFSA donnent des avis.
Oui.
Ils ne donnent absolument pas une autorisation.
Oui.
Un avis est moins qu'une recommandation. La décision finale est prise par la Commission européenne. C'est c'est-à-dire par les politiques, c'est-à-dire par la société. Donc, dans ce que vous avez dit, tout n'est pas absolument exact. Tout au moins, j'estime que vous jouez sur certains mots pour suggérer des choses qui ne sont pas tout à fait le reflet de la vérité.
Alors, je vais préciser les choses. Je vais préciser les choses. La Commission européenne consulte en fait le Conseil des ministres de l'Environnement et de l'Agriculture qui doivent se prononcer à la majorité qualifiée, c'est-à-dire grosso modo aux deux tiers. Sachant que ce n'est pas deux tiers de 27 puisque ces votes sont pondérés par l'importance des pays dans l'Europe. Donc le vote de l'Allemagne et de la France ont par exemple beaucoup plus de poids que le vote des petits pays de l'Est de l'Europe. Et cette majorité qualifiée n'a été atteinte qu'une fois. Elle n'est en général jamais atteinte, ni dans le sens d'une autorisation, ni dans le sens d'un refus. Et dans ce cas-là, c'est la Commission européenne qui tranche. Si vous considérez que la Commission européenne, c'est le peuple, et que la Commission européenne représente le peuple, on n'a pas tout à fait la même notion de la démocratie. Mais c'est la Commission européenne qui tranche sur l'avis de l'EFSA, et donc l'EFSA, qui effectivement n'est qu'un comité d'experts et ne devrait donner que des recommandations, devient de fait un comité décisionnel, puisque tous les avis de la Commission européenne s'appuie sur celui de l'EFSA et se réfugie derrière l'avis de l'EFSA en disant « l'EFSA a dit qu'il n'y avait pas de problème, c'est eux les scientifiques, c'est eux les experts, donc nous sommes dédouanés de toute conséquence. » Oui, mais n'empêche que ça conduit au même résultat. La Commission européenne, non. Vous avez élu Barroso, quelque part, à un moment donné ? Si c'était au moins le Parlement européen qui se prononçait, je serais assez relativement d'accord avec vous. Si c'était le Parlement européen, les députés sont au moins élus par le peuple. Le Parlement, la Commission européenne, c'est quand même, ça fait quand même partie des grosses critiques du dysfonctionnement de l'Europe. D'où la nécessité, vous n'avez pas tout à fait tort, mais d'où la nécessité, justement, de rajouter, en plus de l'avis des experts, un avis citoyen à travers les conventions de citoyens, par exemple, dont parlera Christophe demain, qui serait un moyen pour le politique, si vous voulez bien m'écouter. Oui. Ce serait donc un moyen pour le politique de prendre un avis pluriel, l'avis des experts scientifiques, mais aussi l'avis des citoyens. Et qui ne seront peut-être pas les mêmes, et là, on verra vers qui les politiques tranchent dans ce cas-là. Aujourd'hui, malheureusement, ils se réfugient que derrière un seul avis, et force est de constater que cet avis n'est pas du tout basé sur des notions scientifiques rationnelles, puisque si c'était le cas, il n'y a aucune raison que la réponse soit toujours la même et soit toujours favorable.
Donc je pense que le débat qui vient d'avoir lieu montre assez clairement le côté très politique de la chose. C'est vraiment dommage, monsieur, que vous partiez. Alors, excusez-moi, mais peut-être que vous pourriez venir plus près, prendre un micro et avoir à ce moment-là un vrai débat.
Bah écoutez, on est là pour débattre, monsieur. Venez nous dire votre point de vue. La contradiction, c'est ce qui fait respirer la démocratie. Et moi, je suis en train de pleurer le manque de démocratie en Europe. C'est pas moi qui vais vous empêcher de parler. Venez, je vous donne mon micro.
Vous venez, vous prenez un micro et vous discutez vraiment. Tiens. Bon.
Je ne peux parler que de ce que je connais, bien évidemment. Je ne connais pas du tout la commission à l'EFSA qui s'occupe des OGM. Je n'en fais pas partie directement, mais je connais très bien le fonctionnement et je connais très bien les experts français de la commission DNA, qui s'occupe donc des produits alimentaires. Si, je ne pourrais pas donner le chiffre exact. Donc le pourcentage d'évaluation que je vais donner est approximatif, mais n'est pas exagéré. Le pourcentage d'avis défavorable sur les demandes d'allégation, pour reprendre le terme, c'est, je suis certain, plus que 95%. Donc il ne faut pas automatiquement laisser entendre que tous les experts sont vendus à l'industrie et donnent systématiquement des avis favorables pour faire plaisir à l'industrie. Oui, oui, mais on a parlé de l'EFSA et du fonctionnement des agences qui sont... Parce que quand on dit qu'il n'y a aucun contrôle, même si de temps en temps, effectivement, et vous avez cité le cas du médiateur dont on peut, bien entendu... discuter et probablement même déplorer, bien sûr. Mais il n'est pas exact qu'il n'y a pas de dispositif de contrôle et de surveillance et de vigilance en France et en Europe, puisqu'il y a eu une multiplication très grande du nombre d'agences qui, bien entendu, de temps en temps, malheureusement, et ça défraie la chronique à juste titre, la chronique journalistique et d'information, de temps en temps, présente des dysfonctionnements. Mais le nombre de dysfonctionnements est mineur, à mon avis, par rapport au nombre d'évaluations, puisque ce sont de nombreux comités qui travaillent à l'année longue et qui donnent de très nombreux avis. Alors, il y a quelques dysfonctionnements. Et puis, je voudrais aussi revenir sur le problème du conflit d'intérêts des experts. C'est quand même très bien encadré. Et, sauf à commettre... Vous y êtes ? Vous voyez comment ça se passe ? Vous consultez les déclarations d'avis d'intérêt, je ne dis pas de conflit d'intérêt, les déclarations d'intérêt des experts qui sont publiées, qui sont accessibles, qui sont sur Internet systématiquement depuis des années. Et quand un expert a effectivement un conflit pour un produit parce qu'il a travaillé avec l'entreprise présentant ce produit, il est systématiquement exclu de la discussion relative à ce produit. Systématiquement, oui. Eh bien, écoutez, moi, j'ai siégé 9 ans à l'AFSA, dans le comité de nutrition humaine, et je peux vous dire, et j'ai siégé après dans d'autres comités, et j'ai même démissionné de la présidence d'un comité, justement pour me libérer d'une, non pas d'une suspicion, mais de discussion, on aurait pu dire, oui, mais de toute façon très généraliste, ce monsieur, il a effectivement des relations avec l'industrie, donc j'ai démissionné d'un comité, de la présidence d'un comité, pour laisser une certaine clarté. Mais je pense qu'il ne faut pas systématiquement faire croire que ces agences fonctionnent systématiquement de façon noyautée et déloyale. Il y a quelques dysfonctionnements, il y a quelques problèmes, mais ça serait faux de laisser entendre et d'accréditer cette idée que systématiquement tout est biaisé.
Alors,
nutrition, je suis médecin, je suis professeur de CHU et je suis expert en nutrition.
Sur le, sur le panel OGM de l'EFSA, le fait est qu'on a la liste de toutes les personnes des 21 membres du panel de l'EFSA. Je parle du panel OGM de l'EFSA, d'accord ? Il y a parmi l'EFSA, il y a un certain nombre de panels et il y en a 3 qui ont été mis en cause avec les conflits d'intérêts. Et notamment, dans le cas du panel OGM, ces conflits d'intérêts, c'est essentiellement avec l'ILSI. L'ILSI est une association internationale de sciences du vivant, Life Science International. Ouais. Ouais. Et vous savez très bien que l'ILSI fonctionne avec les plus grands semenciers de la planète, dont Bayer, dont Monsanto, etc. Quand on est censé évaluer les OGM, moi je veux bien qu'ils sortent de la salle pour délibérer. Je veux bien qu'ils sortent de la salle pour délibérer. Le problème, c'est qui va délibérer, puisqu'il n'y aura plus personne dans la salle.
Là vous soulevez un véritable problème. Attention, j'ai dit que lorsqu'un expert était en conflit d'intérêts, parce que le produit qui va être examiné, le produit ou le problème ou l'allégation, enfin la question qui va être examinée est proposée par un industriel avec lequel cet expert a travaillé, que là, évidemment, il est en conflit d'intérêts et il doit s'abstenir, sortir et ne pas participer au débat et à la décision finale. Mais si vous voulez éliminer de ces agences qui fonctionnent selon le principe de l'expertise collective, c'est-à-dire qu'il y a, par exemple, au comité où je siégeais, il y avait quand même 40 membres permanents présents à chaque réunion, plus éventuellement des experts extérieurs auxquels il était fait appel en fonction de leurs compétences lorsqu'il y en avait besoin sur un problème particulier. Eh bien, si vous éliminez actuellement tout expert qui a un jour ou l'autre eu une relation, un conseil donné ou effectivement aussi de l'argent reçu pour alimenter la recherche, parce que vous avez souligné la pauvreté des fonds publics pour la recherche, ça malheureusement, c'est une réalité. Hein. Mais quand on voit l'état des finances de nos États, ben, on se demande si on pourrait faire autrement. Bon, un peu plus, on pourrait faire un peu plus, bien sûr. Comment ? Oui, non mais... D'accord. Bon, si on élimine tous les experts qui ont la moindre relation, ou qui ont eu la moindre relation avec l'industrie, vous n'aurez plus aucun expert ou que des professeurs Nimbus.
Dont acte.
Alors, je réagis quand même sur ce dernier mot avec professeur Nimbus, parce que c'est considéré que tous les scientifiques qui n'ont pas de rapport avec l'industrie sont des scientifiques de seconde classe, et ça, c'est insupportable. Moi, des experts qui n'ont pas de rapport avec l'industrie, je peux vous en citer un paquet, et on pourrait très bien, à défaut de ne pas avoir, parce qu'on pourra dire que les conflits d'intérêts ne sont pas nécessairement industriels, eh bien qu'il y ait au moins dans le panel une représentation de l'ensemble des courants de pensée scientifique sur le sujet. Ce n'est pas du tout le cas, et ça, vous qui êtes si soucieux de la démocratie, je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas interpellé par ce manque de démocratie.